Bonjour à tous. Alors, Fabienne m'avait invité il y a 2 ans, je n'avais pas pu venir. Elle m'a invité l'année dernière, je n'ai pas pu venir. C'est pour ça qu'elle pensait que j'étais déjà venu. Donc voilà, ça s'est fait maintenant cette année. Je suis ravi et donc je tiens à remercier Fabienne, à remercier Nicolas, toute l'équipe pastorale pour cette opportunité, ce privilège, mais aussi cette responsabilité. Et je suis évidemment heureux de pouvoir partager cette parole avec vous ce matin. Donc vous avez vu ma ravissante épouse. Par la grâce de Dieu, le mois dernier, on a fêté nos 21 ans de mariage. Oui, donc au cas où vous vous dites, mais il est jeune, j'en ai 47 quand même. Hein. Donc voilà, et c'est bien. En tout cas, je remercie le Seigneur pour la partenaire de vie qu'il m'a donnée. Et vraiment, comme il est dit, hein, enfin, je respire avec elle. C'est vraiment une femme merveilleuse et je bénis le Seigneur. En tout cas, en ce matin, le thème donc qui vous a été partagé, l'alignement qui amène à la manifestation, est quelque chose qui, je crois, va pouvoir permettre que vous partiez dans une direction où peut-être si vous étiez dans des situations d'échec qui se répétaient, vous allez maintenant expérimenter des réussites qui se répètent. Parce qu'il y a, j'aime à dire que Dieu est un Dieu de principe. Il faut comprendre que même si Dieu est un Dieu de liberté à bien des égards, et en particulier dans sa présence, la réussite ou le accomplir certaines choses répond par contre à des principes. Tu peux avoir une certaine liberté dans ce que tu vis avec Dieu, mais pour pouvoir accéder à certaines dimensions, pour pouvoir manifester certaines choses, il y a des principes qu'il faut connaître pour que tu puisses toi aussi les appliquer et les voir s'accomplir. Donc même si tu aies de grandes ambitions ou pas du tout, ou que tu sois comme quelqu'un qui priait dans la Bible en me disant « ne me rends pas trop riche ni trop pauvre, donne-moi juste ce qu'il faut pour que je ne te renie pas », pas de problème, peu importe là où tu veux être ou là où tu veux aller, mais ce qui est important, c'est que tu sois, tu aies la compréhension que les aspirations que tu as, les choses que tu as à cœur d'accomplir, petites ou grandes, vont nécessiter, dans certains cas, que tu puisses aligner. Et je vais vous parler donc de ces éléments, que tu puisses aligner certains éléments dans ta vie qui feront que tu le vivras. Parce que quand on parle des choses de Dieu, quand on parle des promesses de Dieu, quand on parle de sa puissance, quand on parle de guérison et des choses miraculeuses et bien d'autres choses que nous entendons, dont parfois nous voyons cela se manifester dans la vie de certains ministères, tels que les malades qui doivent être guéris et tout ça, bien aimé, manifester la puissance de Dieu, si c'était si simple que cela, tout le monde le ferait. Manifester le prophétique dans certaines dimensions, si c'était encore une fois si simple que cela, mais il y aurait à foison des personnes. Donc on voit bien que très peu percent certains mystères, très peu accèdent à certaines dimensions qui font qu'ils le vivent alors que d'autres ne le vivent pas. Et moi, tout simplement, ce matin, je vais essayer de rapidement vous partager 4 clés, 4 éléments qui font partie de ce que j'appelle l'alignement qui permet que ce que l'on attend, ce que l'on veut voir, puisse se manifester. Et en vous partageant cela ce matin, je vais le dire déjà dès le début, croyez-moi, vous allez le comprendre en écoutant ce qui va ressortir. Ces 4 clés, ces 4 éléments, je ne vous promets pas, non pas moi qui promets, mais toutefois le Seigneur par rapport à sa parole, parce qu'évidemment nous ne sommes rien, 100% de résultats. Je dis bien 100% de résultats. Les seules choses qui feraient que les résultats ne seraient pas au rendez-vous, si vous êtes aligné par rapport à ces points que je vais développer, c'est juste que Dieu ne le veut pas. Et même pas que Dieu ne le veut pas, que Dieu s'y oppose. Parce qu'il y a des niveaux où Dieu peut ne pas vouloir, mais tu vas quand même le faire. Ça peut être le mal, ça peut être le péché. Mais il y a des moments où, en plus que Dieu ne veut pas, Dieu s'oppose, c'est-à-dire que Dieu intervient. Et si tu es aligné avec sa volonté, 100% de résultats sont garantis. Et nous allons ensemble le voir. Les 4 clés, les 4 éléments d'alignement dont je vais vous parler rapidement ce matin, la clé numéro 1 ou l'alignement ou le point numéro 1, l'élément numéro 1, ce sont nos pensées. Donc les 4 clés, il y a tes pensées, tes émotions, ta foi et tes paroles. Les pensées, les émotions, la foi et les paroles. Lorsque je parle d'émotion, vous pouvez inclure sentiment. La différence entre une émotion et un sentiment, pour moi, elle est très simple, c'est la durée. Une émotion peut être courte, est courte en général. Un sentiment, c'est quelque chose de plus durable. Mais on est dans la même sphère qui touche à notre âme. Donc, on va parler de l'alignement des pensées avec les émotions, avec la foi et avec les paroles. S'il est possible d'afficher pour le peuple le livre de Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Genèse 11, 1 à 9. Je vais faire la lecture. Il est dit... Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Vous pouvez déjà retenir qu'il y avait une seule langue et les mêmes mots. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Verset 7, « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » C'est donc sur ce texte principal que je vais essayer de vous faire ressortir ces quatre clés dont j'ai parlé, qui sont donc les pensées, les émotions, la foi et les paroles. Voyez que dans cette histoire, déjà sur la fin, c'est Dieu qui s'est opposé et il n'a pas juste dit « je n'en veux pas », il a dû descendre pour dire « je vais, pardonner l'expression, foutre le bordel », comme ça ils ne pourront pas y arriver. Là c'est Dieu, hein. Parce que Dieu lui-même va dire au verset 6 que si là j'ai vu ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ont décidé d'entreprendre, et maintenant rien ne les empêcherait. C'est Dieu qui est en train de voir des projets d'hommes qui ne sont pas des projets selon sa volonté. Pourquoi ils ne sont pas selon sa volonté? Parce que quand vous lisez dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 28, quand Dieu va bénir l'homme, il est dit, Dieu les bénit et Dieu va leur dire, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Voilà que ces personnes se lèvent avec une décision, une volonté différente qui est de dire, ne la remplissons pas, restons dans un seul endroit. On va bâtir une tour très élevée. Attendez, Dieu vous a dit, allez partout, remplissez. Vous vous dites, non, on va rester, on ne va pas bouger. Donc, leur volonté, leur dessein était opposé à ce que Dieu voulait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses. Si Dieu n'intervient pas, même quand vous allez à l'encontre de ce qu'il veut, vous pouvez y arriver. Vous pouvez parvenir à cela. Mais Dieu, là, est intervenu parce que lui-même a dit, si je ne le fais pas, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Mais si nous voyons ce que ces personnes ont eu à cœur de faire, même si c'était à l'opposé de Dieu, on est dans un contexte, les amis, où nous ne sommes pas au 21e siècle, où il n'y a pas de grue, où il n'y a pas tous ces équipements technologiques qui permettraient de faire ça. Pardon, mais je ne sais pas, est-ce que c'était l'ère primitive? En tout cas, ils se sont dit, on va bâtir une tour qui touche le ciel. Ça commençait par une pensée. Le micro que je tiens, quelqu'un l'a pensé. Les habits que tu portes, quelqu'un les a pensés. Toute la technologie que nous avons, il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas tout ça, c'est entré dans la pensée de quelqu'un. Les iPhones, c'est entré dans la pensée de quelqu'un. Quelqu'un a pensé quelque chose. Et Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, il a eu d'abord la pensée de l'homme. Quand il a dit « faisons l'homme à notre image », je vous rassure, Dieu connaît son image. Donc, il a visualisé quelque chose. Il a pensé quelque chose. Et Dieu a des pensées. Dieu visualise des choses pour nous, pour la nation France et pour tous les peuples. Et il est très important que nous comprenions que les pensées, c'est le point numéro un, de là démarrent les choses. Lorsque nous lisons Proverbes chapitre 31, verset 16, ce chapitre parle de la femme vertueuse. Il est dit à son sujet, Proverbes 31, 16, « Elle, en parlant de la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. » Elle a pensé d'abord à un champ. Ce bâtiment, son organisation, il y a des choses qui ont été pensées, parfois qui ont été refaites, qui ont été améliorées, qui ont été corrigées. Mais les amis, l'alignement du miracle, l'alignement de la manifestation nécessite que tes pensées soient en phase avec tes émotions, ce que je vais expliquer, et avec tout le reste. Parce que s'il y a des éléments qui ne sont pas alignés dans ce que tu penses, dans ce que tu ressens, dans ce que tu crois, dans ce que tu dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de manifestation, mais là, ça sera la grâce de Dieu. Parce que là, ces gens-là, ils ne se sont pas appuyés sur Dieu pour dire « Dieu, aide-nous à bâtir ». Ils n'avaient rien à faire de Dieu. Dieu n'était pas invoqué dans leur projet. Mais Dieu lui-même a rendu témoignage que si je les laisse faire, ils y arriveront. Parce que ces personnes-là étaient en alignement avec ces quatre phases, ces quatre éléments que je vous partage ce matin. Ils ont pensé quelque chose qui, à la lumière de l'évolution technologique de l'époque, était simplement pas possible. Mais ils y ont pensé et ils se sont dit, on peut y arriver. Vous devez comprendre que nos pensées sont déjà l'antichambre du monde spirituel, l'antichambre du combat spirituel. Tu y es déjà quand tu penses les choses. Tu y es déjà quand tu penses. Jésus a dit que celui qui regarde une femme, ne fût-ce que pour la convoiter, a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. C'est-à-dire que les pensées sont tellement puissantes dans ce qu'elles peuvent créer, dans ce qu'elles peuvent nous emmener à faire, qu'on a l'impression que ce sont des choses légères. Ça n'a rien de léger, les amis. Et beaucoup de personnes, même quand il s'agit de recevoir les choses de Dieu, sont tellement dans le cafouillage parce qu'elle pense à tout et n'importe quoi. Quand on rentre dans la pensée de quelqu'un, on a l'impression que c'est un boulevard avec 36 chemins où on ne sait pas dans quelle direction aller. Non, les amis, il y a des choses qui s'apprennent, y compris dans le prophétique. Mais en général, lorsque je reçois des paroles ou des révélations, il n'y a pas 36 000 sources. Je sais aujourd'hui avec plus de certitude qu'il y a quelques années passées, parce qu'évidemment, l'expérience avec le Seigneur aide. Mais mes pensées ne se baladent pas partout, ne sont pas dans mille et une choses ou autres. Donc quand il y a des informations, quand il y a des choses qui me viennent, je sais que ce n'est pas moi qui suis en train de les penser là, parce que mon esprit n'était même pas dans ces choses. Et forcément, je ne veux pas dire que tout ce qui vient est de Dieu, bien entendu. Mais après, il faut savoir discerner. Bon, je n'entrerai pas dans tout ça. Mais vous devez comprendre que si vous preniez à la légère ces pensées, ces choses qui vous habitent du matin au soir et à d'autres moments de la vie, c'est l'une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu passent à côté de beaucoup de manifestations dans leur vie, parce que leurs pensées ne sont pas alignées sur les pensées de Dieu. Dans Ésaïe 55, 9, Dieu va dire « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Parfois, nous prenons nos pensées, nous prenons nos désirs pour la volonté de Dieu. L'homme a été tellement convaincu qu'il est allé jusqu'à dire « Ce que femme veut », finissez la phrase. Il y a un ami qui, en répondant à ça, a fait de l'humour, il a écrit « Est-ce que Dieu était d'accord avec Ève ?» Non, bien sûr que ce que la femme veut, Dieu peut le vouloir, pareillement de l'homme, mais Dieu dit mes pensées sont au-delà de vos pensées. Parfois, nous prenons ce que nous ressentons comme étant le sentiment de Dieu, comme étant la pensée de Dieu, comme étant le désir de Dieu. Nous avons tous des caractères qui nous sont propres. Nous avons tous des sensibilités, que ce soit musicales, que ce soit spirituelles, que ce soit organisationnelles. Nous avons tous des approches différentes. Dans certaines maisons, il faut enlever les chaussures, dans d'autres, allez, rentre comme tu es. Donc, ça, il faut juste savoir que c'est comme ça que nous sommes. On fait avec, mais essayons de comprendre que quand Dieu dit que ses pensées sont au-dessus des nôtres, parfois nous nous voyons et nous sommes parfois irrités en voyant certaines choses, en pensant que Dieu est irrité avec nous. Non, ton irritation vient de ton éducation, vient de ta sensibilité, vient de beaucoup de choses qui ne correspondent pas à ce que toi, parce que quand tu vois les gens manger avec des mains, oh là 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 là, mais ils sont mal éduqués. Quand tu vois, mais il y en a d'autres. Non, donc je n'entre pas dans tout ça. Je dis juste que nos pensées ne sont pas nécessairement les pensées de Dieu. Elles peuvent parfois l'être, mais attention, attention, nous sommes des êtres humains. Ne nous mettons pas au diapason de Dieu comme si nos pensées déterminaient ce que Dieu pense. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour oindre David et que le prophète est arrivé chez le père de David et qu'il a vu le premier fils aîné Eliab, il s'est dit « Ah, très certainement, c'est celui-là que Dieu va oindre. » Et là, Dieu va lui dire « Samuel, avec tout le temps que tu passes avec moi dans la prière, tu n'as toujours pas compris que moi, je ne regarde pas ce que vous regardez. » Parfois, on a nos pensées, on se dit « Ah, c'est lui l'élu, ah, c'est elle, ah, c'est ça, ah, c'est ci, ah, c'est ça. » Non, 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 non. Dieu prend les choses parfois folles, viles, pour confondre les sages. Les pensées de Dieu, bien-aimés, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre, l'homme ne peut pas maîtriser. Qu'un simple rejeton de la tribu de David va naître et devenir le sauveur. Comment ? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Les pensées de Dieu sont bien différentes des nôtres. Et ce que la Bible nous invite à faire dans Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensée. » Sans commenter ces différents adjectifs et qualificatifs, je resterai que sur le premier qui dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. La vérité, ce n'est pas toi et moi qui la fabriquons. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et là aussi, tes pensées doivent s'aligner sur ce que Dieu dit. C'est la première chose qui va te permettre d'être dans le cheminement de l'alignement qui emmènera à la manifestation. Parce que quand Dieu dit que tu es guéri et toi tu dis je suis malade, tu n'es pas aligné. Quand Dieu commence à déclarer les choses qu'il veut et que toi tu es dans une déclaration contraire, quand tu connais les pensées de Dieu, les projets qu'il a formés et tout ce que sa parole nous enseigne et que tu te retrouves à penser différemment, il y a un travail de discipline que tu dois faire. Il est dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Donc quelque part, c'est à toi de t'obliger, c'est à toi de te discipliner à ne pas penser les choses. Lorsque j'étais ado et parce que par grâce de Dieu, j'ai connu le Seigneur assez jeune. Non, mes pensées n'étaient pas sur les femmes, n'étaient pas sur les jeunes. Je ne m'asseyais pas devant les trucs et puis je commençais à miroiter ou à essayer d'envisager parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu me dit de faire. Ça ne veut pas dire que mes sens, ça ne veut pas dire que l'être humain, nous sommes des êtres de chair. Bien sûr que les mauvais désirs peuvent se manifester, peuvent être là. Mais à un moment donné, quand tu veux être en phase avec Dieu, il faut que tu fasses ce travail au niveau de tes pensées pour qu'elles puissent être alignées sur ce que tu lis, sur ce que tu entends, pour que ça commence à remasteriser, ça commence à formater ton système de pensée. C'est très important. Ensuite, il faut que tes émotions s'alignent sur ce que tu penses. Chaque point que je développe en quelques petites minutes, ça peut faire l'objet vraiment de temps d'enseignement plus profond, mais je crois que le Seigneur vous permettra de saisir des choses, même si c'est court. Les émotions, on les néglige parfois. Même en parlant avec les gens sont dans des phases émotionnelles où on est tellement spirituel qu'on va leur faire comprendre, écoute, t'es trop petit spirituellement, faut que tu montes un peu là. Hein. Ça va, tes émotions de gamin, là, c'est bon. Hein. Mais les amis, n'avez-vous pas vu dans la parole de Dieu le nombre de fois où Dieu parle et parle de nos émotions, parle de notre âme, de ce qui y habite. Combien de fois n'a-t-il pas dit des paroles, ne craignez pas, en touche à l'émotionnel, réjouissez-vous, il a été question de cela ce matin, on touche à l'émotionnel, on touche à l'âme de la personne. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que notre âme, que ce que nous ressentons, fait partie du plan de Dieu pour la manifestation de son royaume, pour la manifestation de ce qu'il veut. Quand la parole de Dieu nous parle que nous devons être un peuple de joie, exprimer la joie, pourquoi pas la tristesse, même si on peut être triste, pourquoi pas la colère, pourquoi pas d'autres sentiments? Parce que les amis, il y a des sentiments, si on n'a pas encore compris cela, qui peuvent emmener comme un nuage sur nos vies, qui peuvent emmener comme un blocage sur la connexion que nous pouvons avoir avec Dieu. Vous tous qui exercez dans le prophétique ou qui y aspirez, je peux vous dire par expérience, mais aussi par compréhension de la parole de Dieu, que les émotions négatives sont des freins à la connexion au prophétique. Quand tu es dans des mauvaises émotions, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé, ça ne veut pas dire forcément que tu ne recevras rien, mais tu seras un petit peu plus perturbé dans la réception de ce que Dieu dit. Je pense que c'est en partie ce qui a pu arriver au prophète Samuel dans l'histoire que j'ai citée, parce qu'il aimait tellement Saül et il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait rejeté Saül. Il s'apitoyait sur Saül. Ses sentiments, ses émotions n'étaient pas en phase avec ce que Dieu voulait. Il a fallu que Dieu lui dise, mais tu vas arrêter avec Saül, moi je l'ai rejeté, va là-bas, va dans tel endroit, je te dirai. Samuel a même essayé de dire, mais Seigneur, si le roi l'apprend, il va me zigouiller, je ne peux pas y aller. Et Dieu va lui donner des stratégies parce qu'émotionnellement, il n'était pas en phase avec ce que Dieu voulait, au point que ça a continué quand Dieu, quand il a vu, il était tellement déconnecté avec la pensée de Dieu, tout prophète qu'il était, qu'il n'a pas vu la bonne personne. On peut être prophétique et se tromper. Et il y a une chose, je ne sais pas si ce sont des termes que vous employez ici, mais en tout cas, dans mon jargon prophétique, j'aime parler de zone prophétique. De zone dans le sens que parfois, on peut recevoir une révélation, on peut recevoir une pensée de Dieu, mais on n'a pas encore situé pleinement, mais on est dans une zone où tu peux parler de quelqu'un qui a une maladie, de quelqu'un qui a vécu quelque chose. Tu sais que tu es dans la zone, tu n'as pas encore compris, reçu pleinement ce dont il s'agit. Et il y a des zones émotionnelles dans lesquelles on est qui vont faire que certaines choses, on ne va pas pouvoir les recevoir. Parce que ce n'est pas en phase avec ce que nous ressentons et du coup, ça a du mal à entrer. Et les amis, notre esprit, c'est comme un enfant, c'est comme une éponge. Notre esprit ne discerne pas au début, en tout cas, de sa construction, le bien du mal. Tu vas dire à un enfant, tu es bête, tu es nul, son esprit, à force d'emmagasiner ça, va l'intégrer comme étant cela. Quel que soit ce que tu penses, quel que soit ce que tu crois, à un moment donné, ça va devenir une vérité pour toi. C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre que si les émotions, parce qu'elles ne sont pas en phase avec nos pensées, ou si nos pensées sont négatives et qu'elles sont en phase avec des émotions négatives, je peux vous dire que la manifestation de la catastrophe n'est pas loin. Parce que va venir s'ajouter les deux autres éléments que je vais expliquer là. Il est écrit, Philippiens 4, 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Ou le psaume 110, j'ai oublié un verset, j'ai noté que le chapitre. Bon, psaume 118, « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit « Je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Comment tu peux te réjouir à la vue ou à l'annonce de mauvaises nouvelles? Quand on te dit qu'on va te combattre, quand on te dit qu'on va te traîner en justice, lui, il se réjouit. Ça veut dire qu'il avait compris une chose. Quand Jésus dit que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, d'une certaine manière, Jésus est en train de dire, mais s'il n'y a pas de malade, comment vous saurez que Dieu guérit? S'il n'y a pas de problème, comment vous saurez que Dieu répond au problème? Donc quand tu as compris que les problèmes, les maladies, ce n'est pas pour t'attrister, ce sont des opportunités pour voir la gloire de Dieu. Quand tu vois que les combats, ce sont des opportunités pour voir la manifestation de Dieu, ta zone émotionnelle va changer et tu vas commencer à te réjouir. Quand on va t'annoncer de nouveaux combats, tu vas dire « Alléluia, la gloire de Dieu va descendre !» Qu'on va t'expliquer que voilà, il y a tel problème, telle situation, même si sur un plan émotionnel, ça peut t'ébranler de ce que tu as eu l'annonce d'une maladie, de quelque chose. C'est humain et c'est normal. Même le prophète Élie de feu, à un moment donné, il venait de mettre à mort 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Une reine du nom de Jézabel va lui dire, « Toi là, ce que tu as fait, demain là, je vais te faire pareil. » Le gars, il vient de faire descendre le feu. Il a fait des choses. Il prend ses jambes à son cou. Il dit, « Seigneur, donne-moi la mort. » Donc même si ça t'arrive, que toi aussi tu as envie de mourir, pense à Élie, il a eu aussi envie de mourir. Humainement, ça peut nous arriver que les coups soient tellement violents qu'on reste assommé, qu'on reste à terre. Mais parce que nous sommes des hommes spirituels, si nous avons développé notre dimension spirituelle, on va devoir se ressaisir vite. Il faut que le spirituel reprenne le dessus parce que sinon l'alignement inversé va faire que tu vas t'enfoncer plus. Et c'est pour ça que quand il est dit que ce qui est tout ça doit être l'objet de tes pensées, ce qui est vrai, il y a des moments quand tu vois que tu es en train de glisser dans tes pensées, c'est à toi de te redresser. C'est à toi de ne plus accepter cela parce que ça va affecter tes émotions. Hébreux chapitre 5, verset 7, il est dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. » On parle de Jésus qui, avant d'aller à la croix, à Gethsémané, a présenté des grands cris avec des larmes. Je ne sais pas si, et je pense quand même qu'il vous est arrivé dans vos prières, de peut-être crier, de peut-être être en larmes parce que des émotions étaient activées, étaient fortes, étaient touchées. Tu ne peux pas prier avec des larmes et des cris si émotionnellement la situation ne te touche pas, ne t'atteint pas. Les amis, il y a des dimensions de prière. Ma femme a vécu, a été témoin parfois de situations. Je ne vais pas dire que je les contrôle, mais quand parfois des sujets, des situations de personnes me prennent aux tripes, je ne contrôle pas ça. Je ne décide pas que tiens, tel sujet, je le prends à cœur et puis tel autre quoi. Mais il y a des moments où ça vient tout seul. Et quand c'est comme ça, en général, je dis aux personnes, va en paix, ton problème est réglé. Quand je dis ça, c'est pas juste parce que j'ai laissé libérer la parole, mais mes entrailles vont aller devant le Seigneur et vont déclencher la manifestation de ce que j'ai déclaré à la personne. Et quand tu arrives dans des zones émotionnelles où tes émotions commencent à s'aligner sur ce que tu penses et que ce que tu penses est aligné sur ce que Dieu dit, déjà là peut s'opérer des choses, mais même si tout n'est pas encore opéré, il y a les deux autres points que je vois rapidement afin de pouvoir passer un temps dans la prière avec vous. Au passage, même si je prêche comme un TGV, je ne prêche pas tout le temps comme ça, hein. c'est juste que c'est le temps qui fait défaut. J'ai eu la mauvaise idée de prendre un vol qui part à 15h, j'aurais dû prendre un vol un peu plus tard, donc voilà, j'essaye d'écourter les choses. Et donc, les deux autres points, les amis, franchement, veillez à vos émotions. C'est un apprentissage aussi, mais allons au point numéro 3, la foi. Vous savez, la foi n'a rien à voir avec les émotions. La foi n'a rien à voir avec ce que nous ressentons, même si il peut y avoir. Et il y a souvent des connexions entre ce que nous croyons et que nous ressentons, parce que nous le voulions ou non, ce que nous ressentons peut nous faire basculer au niveau de notre foi dans quelque chose que nous allons exprimer qui correspond aux émotions du moment. Quand vous lisez Marc chapitre 11, verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il est dit, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Chers amis, on vous a parlé de ce verset sans doute de bien des manières. Mais on dit, crois que tu l'as reçu, donc que tu l'as déjà. Donc quelque part, on fait appel aussi à tes pensées, que tu dois te voir en possession de la chose. Et on fait appel donc justement à ta foi. La foi est différente des pensées. Ce que tu penses, c'est une chose. Ce que tu crois, c'est autre chose. La Bible dit évidemment que la foi est une ferme assurance. Quand on parle de ferme assurance, on n'est pas dans les pensées. Quand on parle de ferme assurance, Hébreux 11, 6, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. J'aime bien en anglais, il est dit « Faith is the substance of things hoped for ». Donc, en d'autres termes, si je retraduis ce qui est dit en anglais, c'est que la foi est la substance, la matérialisation des choses que tu espères. Donc, ce n'est pas juste une assurance, mais la foi va matérialiser. La foi va emmener à l'existence la chose qui n'est pas. Lorsque nous disons à un malade « Sois guéri » et que la guérison arrive, la guérison n'était pas avant que je déclare, mais ma foi va manifester la chose. Ma foi va emmener une réalité spirituelle à venir s'établir dans la réalité naturelle de la personne. Et quand on comprend que la foi, c'est, je dirais, cette sorte de passerelle, cette sorte de point de bascule entre la chose qui n'était pas et que lorsque quand cette chose qui n'était pas rencontre la foi, la chose vient à l'existence. Donc on n'est pas dans les pensées là. Mais nos pensées doivent s'aligner à notre foi et notre foi doit s'aligner à nos pensées. C'est-à-dire, je pense la réussite, je pense la guérison, je veux cela en dedans de moi. Mes sentiments, mes émotions sont en phase avec ma volonté, avec mon désir. Et maintenant, ma foi va être ce qui va permettre que du monde spirituel, du monde invisible, de là où la chose n'est pas, parce que j'y crois, la chose va arriver, la chose va se manifester. J'aime souvent dire aux gens, comme Jésus dit dans Marc 9, 23, que tout est possible à celui qui croit. Je rappelle aux gens que Jésus n'a pas dit « tout est facile à celui qui croit ». Parce que dans nos esprits, on lit « possible », mais on pense « facile ». Non, il n'a pas dit « tout est facile à celui qui croit ». Et parce qu'il y en a justement, quand il y a la difficulté, on lui dit « t'as pas la foi ». Parce que l'on pense que la foi va tout de suite rendre les choses faciles. Non ! Même si c'est difficile, si tu crois, cela se fera. Même si la montagne est haute, si tu crois, cela se fera. Même dans la souffrance, si tu crois, cela se fera. Donc, ôte quelque part de ton esprit que parce que tu crois, ça va être facile. Que parce que tu crois, il n'y aura pas les géants qui vont te combattre. Que parce que tu crois, Satan va dire, « Ouh là là, celle-là, elle a la foi. On va lui dresser un tapis pour la laisser rentrer. Hein, laissons entrer la reine de gloire. » Non, 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 non. Satan ne va pas faire les choses comme ça. Il va se dresser contre ta réussite. Il va se dresser quand tu es là en disant, « On veut gagner Toulouse. » Satan dit, « Ouais, on va vous aider, on va faire une mêlée, vous allez nous... Plus tu vas vouloir aller haut, plus tu vas vouloir piller l'enfer, plus je peux te garantir qu'il va falloir que tu aies la foi. Parce que les oppositions, tu ne vas pas comprendre d'où elles viennent. Tu ne vas pas comprendre comment avec tes beaux projets de paix, où toi tu veux emmener que la guérison, tu vas faire comme Paul qui va chasser un esprit de divination et derrière tout le monde va lui tomber dessus. Au lieu que les gens se réjouissent qu'un démon a été chassé, ah, mais à cause de lui, on ne va plus gagner d'argent. Est-ce que tu te rends compte que si ta prière fait que les dealers se convertissent, il y a des gens qui ne seront pas contents? Est-ce que tu te rends compte que si tes combats font que derrière, les gens sortent de la précarité, les musulmans viennent à Christ et que les athées viennent, est-ce que tu penses que Satan sera content et qu'il va laisser faire? Des scandales dont tu n'auras ni la tête, tu ne comprendras même pas d'où ça vient, va arriver. Donc oui, on peut croire et les difficultés peuvent être, les combats peuvent être, mais si ta foi est alignée sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens. Et si même quand les épreuves, même quand les difficultés arrivent, même si ça pouvait te secouer un temps, tu dis même pas mal, même pas peur, je n'arrêterai pas, je continuerai. L'alignement, tu ne dois pas le laisser. Tu dois garder cette lignée-là et alors la gloire de Dieu se manifestera. Et le quatrième élément, donc, les paroles. Nous savons qu'il est écrit que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé par la parole. Oui, bien aimé, la parole est créatrice. Et ce ne sont pas des vains mots, ce ne sont pas du blabla. C'est les choses que tu dis, ce sont les choses qui vont se manifester si tu es dans l'alignement, dans ce que je suis en train de parler. Les paroles peuvent créer l'espoir, elles peuvent créer le désespoir, elles peuvent créer l'amour, elles peuvent créer la haine. Les paroles peuvent créer l'irritation, elles peuvent créer des sentiments magnifiques également. Tu peux être dans l'église avec un frère, une sœur, pas marié, le jour où le frère va aller voir la sœur pour dire, écoute, tu me laisses pas indifférent pour le dire comme ça. Peut-être que la sœur s'y attendait ou s'y attendait pas. Peut-être qu'il correspond à ses critères ou pas. Mais rien que cette petite parole gentille, tu me laisses pas indifférent. Ça peut déclencher soit « Mon bien-aimé est arrivé » ou ça peut déclencher « Arrière de moi, Satan !» Pourtant, c'était qu'une parole. Parce que nos paroles sont porteuses de quelque chose. Tu cries, tu parles mal, tu fais, tu vas déposer une atmosphère, tu vas libérer quelque chose. Les amis, nous sommes loin de mesurer, parfois dans notre quotidien, parfois dans nos propos, combien ce que nous disons crée dans nos vies, dans nos environnements, qui parfois justement nous compliquent la vie. Je vais terminer avec un passage qui va illustrer ce que je viens de dire dans Malachie, chapitre 3, versets 13 à 18. Malachie 3, 13 à 18. « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Oui, ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. » Je répète ce verset. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Dieu va dire « Ils seront à moi, dit l'Éternel. » Et verset 18 pour terminer. « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Bien-aimés, quand vous voyez ce texte, au début Dieu va reprocher à son peuple, vous avez des paroles rudes, dures contre moi, vous dites que ça ne sert à rien de prier, que ça ne sert à rien, nous on est là, on se sanctifie, on fait tout ça, on est, et puis il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Le verset 16 dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent et Dieu a écouté. » Peu importe la durée de tes temps de prière, mais que tu pries 10, 15 minutes par jour, que tu pries 30 minutes, que tu pries une heure ou que tu pries beaucoup plus, tu parles peut-être ou certainement beaucoup plus dans la journée. Tu dis beaucoup de paroles dans la journée. Nous avons cette... Je ne vais pas employer ce terme-là, mais parfois nous sommes un petit peu comme des personnes qui pensons que dès qu'on va dans la prière, qu'on rentre dans les chambres secrètes et qu'on dit je suis béni, je vais réussir, ça t'a pris 2 secondes pour dire ça et tout le reste de ta journée, j'en ai marre, ça ne marche jamais. On a C'est-à-dire que à longueur de journée, tes propos n'encouragent pas. Même toi, quand tu t'écoutes, tu te décourages. Et finalement, tu viens à l'église, allez, on va déclarer, je suis béni. Tu dis, je suis béni. Mais tes pensées pensent à tous tes échecs, tes émotions. Dis, bon, je l'ai dit pour faire plaisir à Fabienne. Ta foi, alors là, ça fait 20 fois qu'on l'a dit, c'est jamais rien passé. C'est-à-dire, tout en toi, il n'y a rien qui est aligné pour que ce que tu as déclaré emmène la bénédiction dans ta vie. Et c'est là où on se berce d'illusions. Ah, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Vous comprenez que ça n'empêche pas Dieu de nous aimer. On ira au ciel, pas de souci. On a Jésus. Mais on va passer à côté de beaucoup de choses parce qu'on n'a pas compris certains principes qui emmènent la manifestation de Dieu. Tu passes 2 minutes à déclarer des bonnes choses, mais toute ta matinée, toute ta journée à être dans le négatif. Pensée négative, parole négative, et derrière, tu crois que tu vas vivre une vie glorieuse, que tu vas voir des manifestations glorieuses de Dieu. On emmène Jésus. Lazare vient de mourir. Jésus dit, il dort. Les gens rigolent. Vraiment, il a trop bu, c'est sûr. Mais lui, il voyait dans ses pensées, Lazare est en train de dormir. Si toi, dans tes pensées, tu vois que ta situation, elle est cadavérée, c'est qu'elle est cadavérée. Si tu vois que ta situation, elle est irrécupérable, que même si tu sais que tout est possible à celui qui croit, pour toi, ta foi, c'est que c'est irrécupérable. Donc, je te rassure, c'est possible, ça sera irrécupérable. C'est là le problème. Il y en a qui ont des petites fois, il y en a qui ont des grandes fois, il y en a qui croient l'impensable, l'impossible et qui le vivent. Et toi, tu es là à te poser la question de comment ça se fait pour moi? L'alignement de ce que tu viens d'entendre. Si tu n'arrives pas à aligner ces choses, ça sera compliqué pour toi. Le TGV va arriver à quai. Dans cette histoire de la tour de Babel, ils ont pensé quelque chose. Et ils ont cru l'incroyable, ils ont cru quelque chose qui ne pouvait pas se manifester, de bâtir une tour qui aille jusqu'au ciel. Je pense qu'émotionnellement, ils étaient excités. C'était un beau défi, c'était un challenge. Ils avaient cette motivation, cette détermination, cette envie, quelque chose qui était vraiment... Et ils se sont mis en route. Sans doute qu'ils ont commencé à créer des plans, à bâtir des choses, à en parler. Bon, toi, tu vas emmener ça. Ils parlaient un même langage, disait-il. Ils n'avaient pas l'un qui disait « ça va le faire » et l'autre « ça ne va pas le faire ». Même si certains vont dire « mais non, mais tu n'as rien compris, toi, là, c'est juste le langage que Dieu n'avait pas encore répondu ». Il y a des leçons spirituelles derrière. Ils étaient en phase. Il n'y en a pas un qui disait « non, non, ce n'est pas possible ». Ils ont dit « c'est possible, on va y arriver » au point que Dieu a dit « si je les laisse faire, rien ne leur empêcherait ». Ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu a vu que leur détermination, Dieu a vu l'alignement de ces clés que je viens de vous apporter a fait qu'ils auraient réussi. À combien plus forte raison si ce que nous voulons faire est aligné sur ce que Dieu veut? À combien plus forte raison si Dieu, l'Éternel, est en phase avec nos projets? Sa parole dit que lorsque l'Éternel, je ne sais plus si c'est Proverbe 16:3, sinon vous le retrouverez, que si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Si Dieu t'approuve dans ce que tu veux faire, même si tu as des ennemis, Dieu peut changer leur attitude. Dieu peut inverser les choses parce que tu as été aligné. Voilà ce que je voulais vous partager de la part du Seigneur ce matin.